Nadine, c'est à toi.
Merci. Merci beaucoup, Audrey. Merci, mesdames et messieurs, de cette sollicitation. Je suis très honorée de vous rejoindre pour ce 20e anniversaire. Je suis attachée à ce territoire pour de multiples raisons. D'abord parce que j'en suis pour partie originaire, que par ailleurs j'ai des racines, l'autre partie de mes racines sont des racines corses de la montagne, donc je participe de cet intérêt pour le milieu rural et les formes montagnardes, l'insularité montagnarde. Et puis, parce que aussi j'ai des liens de longue date avec Jean, notamment, nous nous sommes rencontrés sur d'autres territoires, notamment en lien avec le collège coopératif, et il a été un des grands inspirateurs de mes réflexions sur le développement local, en lien avec les travaux que pouvait porter à l'époque Maurice Parodi. Nous avons baigné dans cette... univers qui était un univers fait à la fois d'éducation populaire et de réflexion sur la coopération. Et donc, à cette occasion, il me plaisait de saluer ce cheminement. Donc, merci de cette invitation. Je suis heureuse aussi de retrouver des anciens étudiants dans le cadre donc, de la formation que je copilote à Marseille sur l'économie sociale et solidaire, qui a 24 ans cette année, donc nous sommes un peu plus anciens que l'UDES. Et donc je suis heureuse de pouvoir à cette occasion aussi retrouver cette communauté qui a commencé à se créer. La thématique de la RTE est une thématique à la mode. Plusieurs courants de pensée s'en saisissent aujourd'hui, qui vont du MEDEF, en passant par l'ESS. Donc c'est un levier éventuellement de discussion, c'est aussi un levier de controverse, parce que nous n'en avons pas forcément la même lecture, mais c'est aussi quelque chose qui s'apparente à un objet frontière, qui nous permet en fait parfois d'entrer en débat, là où les opportunités de rencontre ne se faisaient pas jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi... un enjeu dans un contexte de mondialisation, mais aussi de repli sur soi, et ça a été rappelé, d'ouverture sur un espace qui présente encore aujourd'hui une possibilité d'agir, et le thème est bien « Agir ensemble ». Et donc c'est peut-être un espace où il est encore possible d'agir en commun, d'agir ensemble tant qu'il est temps. Et l'urgence est importante, à la fois pour des raisons d'échéance électorale qui vont arriver très très vite, et sur lequel la question du vivre ensemble est essentielle. C'est un enjeu extrêmement important dans un contexte où les structures de l'économie sociale n'ont pas la reconnaissance qu'elles devraient avoir aujourd'hui. Le rapport de la Cour des comptes est extrêmement clair là-dessus. 10% de l'emploi en moyenne, moins de 5% de l'intervention publique en direction des entreprises de l'ESS. Donc l'écart est particulièrement criant. Donc un enjeu de reconnaissance de l'action menée sur les territoires et au plan national. Et puis un enjeu majeur pour des transitions socio-écologiques que nous ne pourrons pas continuer à ignorer et pour lequel les acteurs de l'ESS sont essentiels aujourd'hui. Donc, un développement de la RTE, sans doute en lien avec ce que Bernard Pecker appelait un tournant territorial, mais c'est aussi un espèce de nouveau mantra. Et finalement, que vient raconter cette injonction territoriale aux acteurs du territoire aujourd'hui, à des acteurs qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste mesure, qu'ils soient ESS, acteurs publics ou acteurs privés du secteur lucratif, qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste mesure par rapport à des grandes entreprises, souvent à dimension internationale, délocalisées, etc. Est-on en face d'un nouvel habillage de dynamique qui serait déjà à l'œuvre dans ce que l'on qualifiait déjà, que Jean qualifiait déjà de développement local il y a près de 40 ans en arrière ? Est-on en face de réappropriation de dynamique portée par l'ESS depuis un grand nombre d'années ? Est-ce que c'est un nouveau mode de régulation ? qui serait centrée sur des coopérations multi-acteurs et multiscalaires, donc à la fois des échelles très locales mais aussi nationales ou plus internationales à l'échelle européenne. Est-ce que c'est cet objet frontière, la RTE, qui nous permettrait d'agir en commun, ou est-ce que finalement n'y a-t-il pas derrière un risque que ce soit un outil de légitimation d'un capitalisme prédateur qui, depuis des années, mobilise des initiatives portées par des acteurs à la marge pour se donner une image de capacité à construire le bien commun. Je ne vous apporterai pas de réponse, je vous donnerai des arguments qui vous permettront de trancher, qui vous permettront de réfléchir, d'inscrire mes propos dans vos propres réflexions et dans vos propres démarches. Mais il me semble aujourd'hui que nous devons avoir une conscience collective et aiguë que nous commençons à avancer vers des terrains pour lesquels il n'y a pas de retour possible. Donc je vous invite non pas à de l'inquiétude, mais à un agir ensemble pour que demain nous soyons encore confrontés à des lendemains qui chantent. J'étais avant-hier dans une journée d'hommage à Claude Alfandéry. Donc nous évoquions à la fois son parcours, sa capacité de lucidité par rapport aux enjeux, que ce soit ceux de la guerre, mais plus globalement des transformations économiques et sociales. Et il me semble que plus que jamais, nous avons besoin d'unir nos forces pour construire les jours heureux de l'après-guerre, pour construire cette capacité à réinventer une sécurité sociale qui peut-être va s'orienter vers l'alimentation, au-delà même des questions immédiates de santé, donc pour construire ensemble un avenir pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc on est dans un contexte qui change, donc enjeu des transitions. Mes collègues évoquent la nécessité de bifurquer, d'organiser des renoncements. On n'est pas obligé d'accepter tout l'héritage qui nous est transmis, mais on peut aussi choisir de prendre dans cet héritage des morceaux qui nous semblent indispensables, notamment ceux qui tournent autour de la solidarité et du vivre ensemble. On voit aussi que depuis les années 80, s'est développée toute une réflexion autour de la responsabilité sociale des entreprises. Dans cette salle, je vois Béatrice Chauvin qui travaille particulièrement sur ces questions-là. La question de la responsabilité sociale, une de ses limites, c'est souvent qu'elle se limite, qu'elle est enclos dans la question de l'organisation en tant que telle, en lien avec des objectifs de développement durable que je rappelle dans la slide, qui sont parfois un peu désincarnés, de plus en plus institutionnalisés et internationalisés, parfois au détriment d'une prise de conscience locale de ce que sont ces dimensions de responsabilité sociale ou sociétale, ou encore d'objectifs du développement durable. D'une certaine manière, parler de responsabilité territoriale des entreprises, c'est réaffirmer cet ancrage durable dans les territoires avec des logiques spécifiques, avec une articulation qui me semble indispensable à réinventer. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais une articulation publique-privée, des alliances renouvelées entre l'État et les collectivités territoriales et les acteurs du développement local, pas simplement les entreprises du secteur privé, mais l'ensemble des acteurs économiques et sociaux présents sur le territoire, dans le cadre d'une recherche d'externalité positive, d'économie relationnelle, donc d'intensification de production du lien, pas simplement de biens, mais du lien comme moteur du développement économique soutenable et comme, quelque part, une recherche de production immatérielle et une recherche de sens partagé. Nous manquons, vous l'avez rappelé dans l'introduction, dans les propos introductifs, nous manquons, quelque part, de cette recherche du sens du vivre ensemble et nous avons un enjeu à reconstruire notre vie collective. Donc, quelque part, s'intéresser à la RTE, c'est poser la question aussi d'un nouveau récit du territoire, d'un récit que nous co-construisons, que nous sommes en capacité de co-construire ensemble, mais que nous voulons aussi, sur lequel nous voulons donner un sens, affirmer un sens qui ne soit pas celui seulement de la concurrence, du marché, mais qui soit bien celui d'un engagement solidaire, d'un engagement vers la réciprocité, pour la collectivité et pas simplement de relations en B2B, en face à face. Donc l'enjeu, il est bien de réussir cette construction du territoire, ce récit partagé du territoire, et qui ne peut pas être un récit qui est porté par une part simplement d'entre nous, mais bien que nous devons co-construire ensemble, en évitant aussi ce qui serait de l'ordre d'une contestation simplement radicale du capitalisme, mais en prenant des éléments du capitalisme qui peuvent nous saisir pour aussi le contourner, s'en saisir, pour éventuellement reconstruire un modèle socio-économique robuste, pour reprendre les propos d'Olivier Hamon. Donc, Marilyn Filippi, dans le cadre d'un premier travail, avait sorti un ouvrage dans lequel, avec Xabier Itzaina, nous avons été, donc mon collègue basque, les alliances corso-basques fonctionnent assez bien. Donc nous avons constitué un petit chapitre sur ESS et RTE. Et donc Marilyn a travaillé à la mise en route d'un gros programme de recherche qui est porté à Bordeaux aujourd'hui à la fois par Marilyn et par mon collègue Timothée Duverger de la chaire ESS de Bordeaux. Et elle définit la RTE comme un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Donc on voit bien qu'on est dans cette référence à la notion de bien commun, de l'agir ensemble, que vous évoquez dans le titre de cette journée. Et on est bien dans l'idée d'entreprendre en collectif et en responsabilité. C'est donc une façon de penser l'action collective à différentes échelles pour agir, de micro-échelles, très locales, presque d'un quartier, à des échelles plus communales, départementales, intercommunales, départementales, régionales. On voit que l'échelle du territoire, c'est largement l'échelle du bassin de vie, de celui dans lequel nous existons, nous développons nos relations, nous nous formons, nous travaillons, nous nous nourrissons. Mais c'est aussi des échelles d'intercoopération territoriale qui s'opèrent aussi. Et c'est donc fondamentalement l'idée de, non pas partir de choses qui viendraient d'en haut, mais l'idée de partir des besoins. Donc agir ensemble à partir des besoins du territoire pour essayer d'avancer vers une action commune pour contribuer à ces besoins du territoire. Donc ça se différencie de la RSE. En ce sens que ça repose plus sur cette dimension inter-organisationnelle et plus sur cette dimension d'ancrage dans les territoires et pas simplement de faire la preuve que sa stratégie peut améliorer la dimension sociale ou avoir un impact, terme très à la mode, un impact favorable dans l'espace dans lequel on agit. Donc la RTE repose sur une dynamique collective. C'est pas simplement une RSE territorialisée. À la différence de la RSE, c'est on part des besoins. On part pas de l'entreprise, on part des besoins et on s'associe autour de ces besoins pour avancer. Donc on est bien dans l'idée d'une articulation entre des organisations publiques et privées, donc de renouer des alliances et de travailler autour des conditions de vie et de travail sur le territoire. C'est notamment ce qui est posé par la plateforme RSE de France Stratégie dans cette dimension d'introduction de la dimension territoriale. Et ce qui est au cœur, c'est bien cette question de l'ancrage. Donc l'ancrage apparaît comme l'expression de la valeur territoriale créée à partir de cette action collective en commun et qui va supposer des éléments d'une gouvernance partagée, un changement de régulation et forcément de nouveaux indicateurs d'évaluation. Parce qu'on ne pourrait pas avoir de RTE sans une réflexion ensemble sur qu'est-ce qu'on veut produire à travers cette RTE et sans avoir une réflexion sur comment on va évaluer et comment on va coproduire ces indicateurs d'évaluation. Il ne s'agit pas d'avoir des évaluations qui seraient prescrites à travers des indicateurs de performance financière ou encore à travers la représentation qu'on a d'une théorie du changement qui fixe des causalités dans un sens unique, mais c'est bien prendre en compte la dimension des interactions. C'est donc aussi repenser nos manières d'évaluer, nos manières de penser l'action qu'on mène ensemble et la prise en compte des interactions qui sont réalisées à l'occasion de cette interaction. Donc faire territoire, c'est avancer vers la montée de ce qu'on appelle ce niveau intermédiaire, qu'un certain nombre d'économistes qualifient de niveau méso, entre le micro de l'entreprise, le micro du quartier, et puis le macro qui serait plus national ou international. Donc qu'est-ce que c'est le territoire? J'invente rien, d'autres que moi l'ont posé depuis longtemps. Donc le territoire, c'est un construit social. Donc c'est ni le territoire purement administratif, donc avec des frontières qui seraient fixées une fois pour toutes. C'est le résultat d'interactions entre des hommes et des femmes, des collectivités, des acteurs en capacité d'agir et qui ont conscience qu'ils sont interdépendants. C'est important, cette notion de conscience, donc de prise de conscience qu'on est en capacité de faire, qu'on agit, et que la moindre action qu'on met en œuvre va avoir des effets de rétroaction sur les autres, et que ces effets de rétroaction peuvent être positifs ou négatifs, mais que dans tous les cas, ils ont des effets, et que ces effets ne sont pas ni neutres, ni neutralisables. Deuxième élément, le territoire, il est aussi une source d'expérimentation. L'ESS, depuis son origine, 19e siècle, depuis sa forme plus récente après la loi Hamon sur la terminologie ESS, elle n'a cessé d'expérimenter des méthodes, des dispositifs, des dynamiques, des produits, des services pour contribuer à inventer des solutions, pour créer des réponses. Elle ne les a pas pensées par le haut avec l'idée d'un idéal qu'il faudrait mettre en œuvre, elle les a pensées par le bas, en lien finalement avec, comme un précurseur de la RTE, dans cette capacité à penser à partir des besoins la réponse adaptée et qui n'est pas forcément la même à Gap, à Marseille, à Bordeaux ou à Metz aujourd'hui, selon des configurations territoriales spécifiques, selon des liens avec des métropoles ou une absence de lien avec des métropoles, etc. Et donc ce sont l'ensemble de ces dynamiques et de ces spécificités territoriales qui vont faire à un moment donné territoire. Et puis le territoire, c'est une articulation entre une proximité géographique, donc avec une dimension de distance, et une proximité organisationnelle autour de cette notion du faire ensemble, d'agir en commun, où on va créer des liens, des accords de coopération. Et finalement, ce qui fait ce territoire, c'est cette superposition de la proximité géographique, donc de ces liens de faible distance, mais aussi de cette proximité organisationnelle, parce qu'on va pouvoir agir en commun dans cette logique de proximité. Donc, des exemples de ce qu'on appelle une RTE, parce qu'on n'en est pas... Elle existe. Le concept est récent, mais elle existe. Bien, on peut en prendre un certain nombre. Altitude coopérante, un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, est un exemple de responsabilité territoriale des entreprises. Donc, les PTCE ont plus d'une quinzaine d'années d'existence. Donc ils ont fait suite à des stratégies de développement local déjà portées dans les années 80 en Italie autour de pôles de croissance locaux. Ils ont été repris à travers l'idée de pôles de compétitivité. La différence entre un pôle de compétitivité et un PTCE, c'est qu'un pôle de compétitivité, il s'appuie essentiellement sur de l'entreprise privée autour de la recherche de stratégies concurrentielles de captation de parts de marché, alors qu'en pôle territorial de coopération économique, il va mettre en lien des acteurs dans des logiques de coopération, articulant d'ores et déjà des acteurs publics et des acteurs privés. Donc d'une certaine manière, le PTCE est un dispositif qui porte une dimension de RTE, et on voit bien que ces PTCE ne sont pas tous les mêmes selon les territoires, qu'ils se distinguent en fonction des spécificités territoriales. Donc on pourrait voir d'autres dispositifs de type, mes collègues de la Drôme portent un dispositif qui s'appelle Start-up de territoire, on le retrouve aussi dans les Bouches-du-Rhône, où on va allier parfois des dimensions d'insertion avec des dimensions d'initiative citoyenne, pour construire du développement économique, avec l'idée que les projets des citoyens peuvent demain constituer des projets d'entreprise viables, en tous les cas générer de l'activité sur le territoire. On va voir des dispositifs qui peuvent être comme un des dispositifs qui existent à Jouques, dans les Bouches-du-Rhône aussi, autour de l'expérimentation territoriale sur le chômage de longue durée, donc territoires zéro chômeur de longue durée, qui constituent des exemples de mise en commun d'initiatives portées par des acteurs du territoire et qui articulent du privé et du public. L'un des éléments intéressants de ces initiatives, c'est qu'elles essaient de mobiliser de façon croissante la société civile. Or, un des enjeux de la RTE est peut-être d'interroger la place de la société civile, et peut-être ne le fait-elle pas encore suffisamment, prise par des logiques d'organisation plus que des logiques de mobilisation territoriale. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous inciter à interroger la place du citoyen dans ces constructions de dynamique territoriale. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de vivre ensemble sans que les citoyens prennent leur part, comme le colibri peut prendre sa part au développement local pour porter sa petite graine et au développement territorial. Et peut-être que l'un des angles faibles, insuffisants de la RTE, c'est penser la place du citoyen comme aussi un des moteurs de prise de conscience à la fois des besoins, mais de construction des réponses. Le deuxième élément qui parfois est un peu pauvre autour des questions de RTE, c'est la place du vivant. Nous avons souvent tendance à penser le développement local comme éventuel protecteur d'un environnement à prendre en considération. Mais quelle place accordons-nous au vivant en tant que tel comme levier d'un développement du faire ensemble? Dans une structure marseillaise, on a mis dans la gouvernance de la structure le jardin dans lequel ils développent leur activité. Sur mon territoire corse, un fleuve est devenu un acteur d'une gouvernance partagée d'un territoire. Qu'est-ce qu'on a envie de donner comme place au vivant et comment on donne une place à la parole du vivant dans le contexte des Jeux Olympiques à venir? Je vous incite vivement à réfléchir sur cette place du vivant dans un contexte où on risque d'oublier la place du vivant au profit d'un outil de développement économique qui a du sens, qui porte des dimensions de solidarité, mais qui peut-être va oublier la solidarité par rapport au vivant. Et quelque part, cette question de RTE m'amène à penser que le lien au vivant doit être essentiel pour contribuer à générer de nouveaux faisceaux d'innovation sociale et construire aussi des écosystèmes territorialisés qui ne soient pas simplement réparateurs, mais qui évitent d'être prédateurs avant la question de la réparation. Donc, quels peuvent être les leviers, les enjeux, pour ne pas être trop long? Eh bien, d'abord, la RTE, c'est un processus et ça suppose des médiations territoriales. Ces médiations territoriales, elles sont indispensables pour mettre en lien. Ce n'est pas parce que nous vivons à côté que nous nous rencontrons. Parfois, nous nous ignorons. Donc, il faut créer les opportunités de se rencontrer. Aujourd'hui, en est une. Mais il ne suffit pas d'un one-shot pour arriver à aller plus loin. Il faut pouvoir créer des occasions de rencontres régulières. Donc la question des médiations territoriales, c'est une question à la fois physique avec des lieux de réappropriation. Chez moi, en Corse, la municipalité, le lieu, l'endroit où on se réunit, ça s'appelle la casa comune, la maison commune. D'accord ? C'est quelque part un lieu qu'on devrait pouvoir s'approprier pour le partager et discuter ensemble des projets de territoire. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut l'être, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc un enjeu de médiation territoriale avec des lieux physiques, des espaces de rencontre, mais aussi des réseaux, des espaces. Et les associations sont bien placées pour le faire. Mais la question de comment on finance les médiations est une dimension centrale. Aujourd'hui, les acteurs publics savent peu financer la question des médiations. Or, pas de construction d'une responsabilité territoriale des entreprises sans financement de médiation territorialisée, donc sans financement de postes de médiateurs sur les territoires, et pas d'avancée là-dessus sans réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire faire des médiations. Faire des médiations territoriales, c'est pas un qui prend la domination sur l'autre. C'est ce que Calon Latour appelle la capacité à faire, à accepter des controverses, à être en capacité d'entendre des points de vue différents et à trouver progressivement des éléments d'accord ou à admettre qu'on n'est pas d'accord partout et qu'il va y avoir des points d'achoppement sur lesquels peut-être qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais qui sont ô combien essentiels. Nous n'avons pas suffisamment d'espace où l'on peut véritablement débattre, non pas de façon partisane, mais des choses essentielles de notre vivre ensemble. Premier élément, donc la médiation, un processus central. Deuxième élément, donc les controverses entre acteurs hétérogènes. Nous devons sortir de notre entre-nous, de notre entre-soi, pour aller rencontrer les autres, les plus jeunes, les plus vieux, les blancs, les pas blancs, ceux qui pensent d'une manière, ceux qui pensent d'une autre manière. Nous devons créer des espaces où les controverses puissent se développer de façon conviviale, à travers des apprentissages de l'écoute mutuelle. Donc les théories de la non-violence sont utiles là-dessus et nous permettraient d'aller plus loin dans notre capacité à débattre entre nous. Et puis, quelles valeurs on a envie de partager ensemble? C'est quoi les valeurs essentielles aujourd'hui? On a parlé ce matin de solidarité. Oui, la solidarité est essentielle. Sommes-nous vraiment encore solidaires aujourd'hui? Nos comportements sont-ils des comportements solidaires? Ne sommes-nous pas marqués majoritairement par l'idéal de la concurrence? À l'école, apprend-on à coopérer ou apprend-on à être le meilleur? Vise-t-on simplement des logiques d'excellence ou des logiques de construction réussie en commun? Donc encore aujourd'hui, dans les valeurs produites, nous sommes surdéterminés par la concurrence. Or, nous devons réintroduire de la coopération. Mais la coopération, elle n'est pas naturelle. Et on ne va pas en faire l'incantation seulement quand on est en difficulté. Je me souviens de Barroso, ancien président de la Commission des communautés européennes, nous mobilisant sur l'innovation sociale en 2010, et nous disant, il n'y a plus d'argent. L'innovation sociale, ok. And so what? Alors encore aujourd'hui, des projets d'innovation sociale perdurent à l'échelle européenne. Mais on ne peut pas parler de coopération seulement quand ça va mal et quand il n'y a plus d'argent public à mettre en œuvre. Nous devons transformer notre mind, notre pensée. Nous devons rentrer dans des logiques où certes nous sommes ponctuellement en concurrence, mais où nous devons réinventer la coopération. Et la coopération, ça s'apprend. Okay, ça se met à l'épreuve, ça se teste. Ça, parfois ça ne marche pas et il faut l'accepter, ça ne peut pas toujours marcher. Mais il faut prendre le risque de la mettre à l'épreuve pour pouvoir demain essayer qu'elle marche. Et donc sortir de l'idée qu'il n'y aurait que la concurrence. Donc nous ne nous faisons pas de mythification non plus de la coopération. Nous sommes souvent dans ce modèle de coopétition. On coopère à certains moments et on est en compétition à d'autres. Mais dans tous les cas, c'est quelle valeur on produit et comment on partage. Et comment on partage la valeur créée sur le territoire dès le moment où on est créé. Cette question de partage de la valeur, elle est loin d'être évidente. Vous voyez le débat aujourd'hui, faut-il augmenter les impôts ou pas? Qui va les payer? Les plus riches, ah ben non, c'est pas possible parce que sinon on ne va plus avoir d'investissement en France. Les plus pauvres, ils n'ont pas le moyen de le faire. Alors on fait quoi? Okay, l'impôt, c'est la règle de base du vivre ensemble. Si on continue à refuser de payer l'impôt, on perd aussi la solidarité. Okay, nous sommes tous à dire que nous payons trop d'impôts. L'impôt, c'est la base du service public. On peut peut-être faire mieux, dans un certain nombre de cas. On peut produire d'une autre manière. Mais il va bien falloir réfléchir à un moment donné à comment la France, qui continue à produire 1 à 2% de croissance par an, n'arrive pas à trouver les moyens de constituer son développement économique et social. Donc il va bien falloir qu'on réfléchisse à un moment donné sur cette question-là et la manière dont on va ensemble construire des règles de base de solidarité en réduisant des choses qui sont complètement incompatibles avec la coopération, en réduisant les inégalités. Nous ne pourrons pas conduire un projet en France partagé si nous n'acceptons pas de réduire un minimum les inégalités, inégalités qui n'ont cessé de se creuser depuis 20 ans. Donc, la valeur produite et le partage de la richesse, c'est une question essentielle. Continuons, changer de récit, vous voyez, je l'amorce, le changement du récit. La place du vivant, la place des coopérations, la nécessité de penser la réduction des inégalités. Donc, passer d'un discours de la concurrence à celui de la coopération. Fonctionner dans une économie de réseau en renforçant les mutualisations. A-t-on besoin tous d'avoir notre propre voiture? Ou nous appuie-t-on pour avoir un moyen de locomotion sur du covoiturage, sur City, sur tous les outils qui existent aujourd'hui pour se déplacer en commun? Donc est-ce qu'on change d'une logique propriétaire pour aller vers une logique du partage? C'est quoi les contraintes? Est-ce que c'est possible de le faire en milieu rural? C'est plus compliqué. Pourquoi? Comment? Etc. Donc changer de discours, c'est aussi penser la mutualisation plus que la propriété, donc le lien plus que les biens. Et puis, c'est repenser notre comptabilité. Je vous invite à regarder les travaux de mon collègue Alexandre Rambaud sur la comptabilité écologique et effectivement sur une manière de réfléchir en prenant en compte les externalités négatives qu'on produit dans notre activité du quotidien. Donc, en question aujourd'hui, dans la RTE, il y a l'idée de la responsabilité. Avec mon collègue Shabir Itzaïna, on interroge cette question de responsabilité, parce qu'on s'interroge sur responsabilité vis-à-vis de qui? C'est pour ça que je parlais de citoyen tout à l'heure. Est-ce que c'est une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la nation? Mais vous voyez qu'elle se noie dans une généralité. Donc, redevabilité territoriale par rapport à qui, sur quel engagement? Okay, dans la RTE, ce n'est pas clairement posé. Deuxième élément, derrière la question de la RTE, il y a une question d'éducation à la coopération. Où éduque-t-on aujourd'hui à la coopération? Et à partir de quels outils? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est des centres sociaux? Est-ce que c'est les colonies de vacances? Est-ce que c'est des camps jeunes, etc.? Et comment on revient? Parce que d'accord, on le fait à l'école, mais après on oublie un peu. Donc comment au fil de l'eau, on se remet dans ces logiques de coopération? Le rapport au pouvoir? On voit bien que quelque part, penser la RTE, c'est aussi affronter clairement la question du pouvoir. Le pouvoir, il est où? Avec qui? Comment on le partage? Comment à certains moments on le partage pas? Quelle est la légitimité des acteurs? Avec qui on fait des alliances? Peut-on faire des alliances avec tout le monde? Oui, non. Moi, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas s'allier avec tout le monde. Il y a des choses sur lesquelles ce n'est pas possible, à condition, évidemment, d'avoir pris le temps d'en débattre. Donc choisir ses alliés, mais ne pas agir tout seul. Donc c'est compliqué aussi de dire on va choisir ses alliés sans finalement se refermer sur soi-même. On va penser sa succession. Oui, à un moment donné, on crée un projet, mais en fait, il faut déjà prévoir celui qui va nous remplacer. Donc apprendre à céder le pouvoir, c'est aussi apprendre à dire ben là, je fais 2 ans, puis c'est bon, après, je passe la main. Mais ça veut dire qu'il faut penser ce transfert de connaissances, etc., etc. Ça veut dire que si ça tourne plus, on apprend plus aussi, mais c'est indispensable de le faire, et puis c'est sans doute indispensable d'apprendre à co-présider, co-diriger. Ok ? Et donc pas simplement à présider tout seul, diriger tout seul, etc. Donc la question de la gouvernance et d'une gouvernance partagée est centrale, donc non pas en ayant les rapports de pouvoir, mais en s'en servant pour pouvoir agir et transformer. Et puis, fondamentalement, la question qui reste centrale, c'est celle du travail. Mais pas le travail au sens de la simple activité salariée, au sens de l'ensemble des activités qu'on mène. Activité éducative dans nos familles, activité du care quand on prend soin de nos proches, jeunes, vieux, de notre entourage, etc. Donc toutes ces activités qui ne font pas partie du travail salarié, qui n'ont pas de reconnaissance, pour une femme, ça peut représenter jusqu'à 50% de son activité quotidienne ou hebdomadaire. Pour un homme, encore un peu moins, mais on ne saurait tarder à se rapprocher vers un peu plus d'équilibre. Enfin, en tous les cas, on milite dans ce sens-là. Donc, un enjeu à reconnaître d'autres éléments dans le travail que le seul travail rémunéré. Et on en voit les limites, d'ailleurs. Nous n'entretenons plus nos territoires parce que nous n'avons plus le temps. Donc un enjeu du travail, sens, engagement, quelle place pour le collectif dans ce travail au sens de l'activité et pas simplement au sens du travail rémunéré. Et vous voyez que quand je dis ça, quelque part, une responsabilité territoriale sur un territoire, c'est aussi penser une réduction du temps de travail salarié pour dégager du temps pour le care, le vivre ensemble, la construction du collectif. Et du coup, quel partage de la valeur produite? Donc Benoît Hamon, dans un autre temps, avant qu'il prenne la présidence de SS France, avait réfléchi à l'idée d'un revenu minimum qui pourrait être partagé, permettant d'exercer de l'activité collective et de construire du territoire en commun. Il me semble qu'il y a une importance, si on pense à du développement local, de retrouver du temps pour agir ensemble. Donc pour conclure, aller plus loin, il me semble qu'il n'y a pas d'autres possibilités que de commencer à s'émanciper de la logique d'accumulation du capital dans les territoires, et qu'il est indispensable aujourd'hui de penser à un projet politique, pas au sens banal du terme, au sens du projet de vivre ensemble, dans lequel nous pensons à la fois le lien au vivant, le sommet de mon triangle, en pensant le projet politique qu'on veut co-construire ensemble et les dynamiques productives qui les accompagnent. Dans ces dynamiques productives, on ne pourra pas échapper à la question du partage de la valeur. Il ne suffira pas d'afficher sa mission, les entreprises à mission. Il faudra dire comment on partage la valeur qu'on a créée sur le territoire et grâce aux ressources qu'on a mobilisées sur ce territoire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous devrons penser de l'entreprise véritablement responsable. Et aujourd'hui, l'ESS a une force, c'est-à-dire de maîtriser un modèle qui, tant du point de vue associatif que coopératif ou des mutuelles, pense la question du partage de la valeur. Donc inspirons-nous de ces réflexions-là, transformons-les peut-être, amendons-les, mais servons-en nous pour nous appuyer sur des expériences qui, depuis un siècle et demi, ont montré leur capacité à faire solidarité, à faire coopération sur les territoires et à produire du bien commun. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, le lien sur le projet politique avec le vivant, il nous amène à réfléchir sur l'habitabilité des territoires dans lesquels on vit. C'est la flèche à gauche, à droite, dans cet aller-retour entre les deux. Le lien entre les dynamiques productives qu'on veut sur nos territoires, il nous amène à réfléchir avec le lien au vivant, toujours pareil. Et là, c'est réfléchir sur des dynamiques qui soient non prédatrices. Donc ils réfléchissent à un usage modéré des ressources, à la reconstitution des ressources, des hommes et des femmes aussi qui travaillent sur ces territoires. Et puis, il faut bien une réflexion sur l'articulation entre le projet politique du vivre ensemble et la dynamique productive qu'on veut mettre en œuvre. Donc on voit qu'en fait, réfléchir en termes de RTE, d'agir ensemble, c'est penser aujourd'hui conjointement un projet politique, des dynamiques productives qui l'accompagnent et, de façon indispensable, un lien au vivant pour préserver la planète tant qu'il est encore temps. Nous continuons à dépasser les limites de reproduction de la planète. Donc la RTE pourrait être un levier de cette dynamique à condition, effectivement, de changer le récit territorial, de changer nos pratiques et de s'inspirer de choses déjà existantes en testant, en conservant cette dimension d'expérimentation. Il me semble que les territoires de montagne, tels que ceux dans lesquels vous vivez, les milieux ruraux dans lesquels on a eu dans les dernières années du désengagement d'acteurs publics, montrent que l'on est encore en capacité d'inventer ensemble des stratégies du vivre ensemble et du vivre collectif pour constituer des territoires dans lesquels nous puissions pleinement développer une intelligence collective et le vivre ensemble. Mesdames et messieurs, je vous remercie.